Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Vous écoutez Les Jeux du Mois, une émission de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Benoît FX et pour m'accompagner dans cette toute première émission de la saison, je suis accompagné de Bartouf. Salut Bartouf.
Salut Benoît FX.
Comment ça va en ce mois de septembre de rentrée ?
Eh ben écoute, il s'est remis à pleuvoir dans ma région, donc moi tout va bien.
C'est mieux quand il pleut pour les plantes, pour tout ce qui vit finalement.
On a besoin, on a besoin pour tout le monde.
Pour tout le monde, c'est mieux. Un peu de pluie, ça fait du bien, surtout après cet été insupportablement sec. Eh bien, vous êtes dans les Jeux du Mois, donc c'est la première émission des Jeux du Mois de cette nouvelle saison de Proxy Jeux. Et du coup, un petit rappel sur ce que c'est les Jeux du Mois, hein, pour ceux qui nous rejoindraient à l'occasion de cette nouvelle saison. Donc les Jeux du Mois, c'est un format critique sur des jeux récents et qui sont des coups de cœur. On présente des jeux qu'on a particulièrement aimés. Historiquement, il y a d'abord eu nos jeux du moment, j'allais dire tard l'époque, avec Olivier et Jérémy, donc avec les fondateurs du podcast, donc ça remonte. C'est devenu une sorte de chronique plutôt courte à partir de 2015. Cyrus est intervenu dans cette chronique à partir de janvier 2016. Et du coup, on a, à octobre 2016, en gros, à la rentrée 2016, on en a fait une émission que je co-animais avec Cyrus pendant pratiquement 3 ans. Puis en 2019, on a intégré Twin, qui était notre troisième larron, on tournait à 3. Donc on pense toujours beaucoup à Twin, hein. Voilà, qui n'est plus parmi nous, mais on pense fort à lui. Et à partir de la rentrée 2020, ça devient plutôt collectif. Hein, c'est qui a un jeu à partager peut faire un jeu du mois. Et d'ailleurs, moi, l'année dernière, par exemple, j'en ai fait qu'un seul, qui était le premier de l'année aussi, sur Rebirth.
Mais oui, mais quelle clairvoyance, Benoît FX.
C'est ça. Et donc, j'en profite pour rouvrir le bal à nouveau cette année. Donc, je serai dans le premier jeu du mois. Est-ce que ce sera le seul? On ne sait pas encore, mais j'espère qu'il y en aura.
Est-ce que ce sera le prochain Spiel? C'est surtout ça la question, parce que tu avais réussi à avoir le Kenner Spiel.
C'est vrai, c'est vrai.
Donc là...
écoute, je ne sais pas. Alors, j'ai un peu... Le jeu que j'ai choisi est un peu moins conformiste que Rebirth, donc j'ai un peu plus de doutes quant à ses chances de décrocher un prix, mais on ne sait jamais, on ne sait jamais.
Très bien. Eh bien, nous allons aussi en profiter pour remercier nos donateurs et nos donatrices qui nous aident à réaliser ce podcast.
Tout à fait.
Donc, ce mois-ci, nous remercions Jimmy Celstix 95, 8Pool, 4-3, Siol, Gobarkas, Siouveil, Yann Le Proto, Pogman, Olive Link, Biwan, Christophe, Mouton, Chacado, Raduris, Ricky et Grovast. Merci également à la Caverne du Gobelin qui nous soutient. La Caverne du Gobelin, ce sont toujours pour l'instant 6 boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson, Thionville, Toul et Semécourt, toutes équipées d'un café-jeu. Mais surtout, c'est une boutique en ligne de jeux de société sur cavernedugobelin.fr.
Eh ben merci Bartouf et puis merci aux donateurs et donatrices. Mais avant de commencer, avant de teaser, avant de parler des jeux qu'on a sélectionnés, parce que jusqu'à présent nos auditeurs et auditrices ne savent toujours pas de quel jeu on va parler.
Eh oui.
On va faire un petit retour sur les commentaires de l'émission précédente, la dernière émission Jeux du Mois de la saison dernière du coup, qui portait sur Dean Up, qui était présenté par Flavien, et Hot Streak, qui était présenté par Cyrus.
Alors, Birdou, qui répondait à la question que s'étaient posé Flavien et Cyrus sur Hot Streak, quel aurait pu être le titre français, vu que c'était le titre original qui a été repris en version française. Mmh. Alors lui, il imaginait pour la version Very Bad Trip du titre, ça serait Mascot Rush. Donc reprendre un titre anglais et refaire un nouveau titre anglais, mais en français. Et sinon, pour une version québécoise, il imaginait que ça serait Série de Victoires ou Victoire en Chaîne.
Ouais, Victoire en Chaîne, c'est pas mal.
Ouais.
Le même Birdou nous dit aussi que par rapport à la mécanique de Dinup qui est empruntée à Fuji Flush, de devoir attendre que ça, enfin c'est un jeu de défaut, hein, Dinup, si vous n'avez pas écouté, mais en fait on pose des cartes, il faut attendre que ça revienne à son tour pour valider la défausse. Donc c'est une mécanique que partage Dinup avec Fuji Flush, mais dans Fuji Flush ça vaut aussi pour la dernière main qu'on pose. En fait, il faut attendre que le tour est fini pour valider qu'on ait posé les mains, alors que dans Dinup, quand on termine ses cartes, ben c'est terminé, on n'a pas besoin d'attendre que le tour revienne à nous. Donc il était assez surpris et un peu déçu de voir que c'était pas vrai pour cette dernière main dans Dinup, ce qui simplifie quand même assez la défausse dans Dinup.
De son côté, Delot, lui, nous expliquait que habituellement il aime beaucoup les jeux du mois, mais cette année il n'avait pas été emballé par les jeux qui avaient été proposés, sauf ces deux derniers qui avaient été proposés, et donc il attendait avec impatience de recevoir ses boîtes. Eh bien écoute, Delot, on espère que tu n'as pas été déçu.
Et puis, un peu comme Birdou qui nous a fait deux commentaires à 10 minutes d'intervalle, et ben Coco Lastico nous a fait aussi deux commentaires à quelques minutes d'intervalle. Le premier pour dire que le côté jeu joueur-spectateur dont Cyrus parle pour Hot Streak lui fait penser aussi bien sûr à Colt Express, avec la sensation de regarder une scène d'action au cinéma. Hein. On retrouve ça dans Hot Streak. On retrouvera ça aussi dans un des jeux dont on va parler aujourd'hui. Oh, peut-être même les deux, je ne sais pas.
Oui.
ça va être quelque chose qu'on va retrouver. Et il nous dit aussi que Hot Streak lui fait penser à un jeu de cartes qu'il appelle le PMU. Je ne connaissais pas personnellement, mais un jeu d'alcool dans lequel on prend quatre pions qui représentent les participants d'une course. Et un jeu de cartes classique, et on retourne, enfin chaque joueur du coup a une couleur qui lui correspond, hein, cœur, carreau, trèfle et pique, et on retourne ensuite les cartes une à une, et on avance le cheval correspondant. C'est la même mécanique, mais dans un jeu à boire, le jeu de cartes, le PMU.
Bon, il précise quand même qu'on peut y jouer sans alcool. Donc,
oui, tout à fait.
Préférons cette version-là, peut-être.
Et il met un lien qui explique aussi les règles du jeu, donc n'hésitez pas à aller voir les commentaires si vous voulez avoir le lien.
Et le dernier commentaire était celui du pionfesseur, et je ne vous le donne pas tout de suite parce que une réponse y sera faite à l'intérieur, moi, de ma critique de mon jeu, donc nous reviendrons dessus plus tard.
Et bien ça fait une bonne transition pour peut-être révéler aux auditeurs et auditrices de quel jeu nous allons parler. Alors de quoi tu vas parler, toi, Bartouf?
Eh bien moi, ça va être une première dans Proxy Jeux depuis qu'existe un jeton à la mare. Nous allons parler d'un jeu qui a déjà été traité chez Proxy Jeux à l'intérieur de un jeton à la mare, mais qui est tellement bien qu'il faut en revenir encore plus dessus.
Il faut en faire un jeu du mois.
C'est ça, qui est Moon Colony Bloodbath de Donald X. Vaccarino.
Très bien, et bah moi de mon côté je vais vous parler d'un jeu qui a un peu buzzé ces derniers temps, hein, qui est Athlète de Compète, Magical Athlete, Athlete dans sa version originale. On en reviendra de Takashi Ishida et repris par Richard Garfield dans sa version actuelle. Mais je vous propose qu'on commence par ça d'ailleurs.
Et bah c'est parti.
Donc le premier jeu duquel on va vous parler, c'est Athlète de Compète, donc un jeu de originalement Takashi Ishida, qui a été repris par Richard Garfield. Alors Takashi Ishida, il a pas fait énormément d'autres choses que vous connaissez. Par contre, Richard Garfield, je pense que y a pas besoin de préciser. Hein, il suffit de citer, on en cite deux, Magic. Bon, déjà, on pourrait s'arrêter là, mais aussi King of Tokyo, hein, qui est dans un style très très différent, un peu le grand écart de Garfield entre Magic et King of Tokyo. Mais voilà, des jeux qui parlent à tout le monde. C'est illustré par Angela Kirkwood. C'est édité dans sa VO par CMYKEY. C'est localisé en France par Yellow et traduit par Yellow. Ça se joue de 2 à 6 à partir de 6 ans. On reviendra là-dessus, mais ouais, à partir de 6 ans pour des jeux d'environ. Enfin, pour des parties d'environ 30 minutes. Et c'est fabriqué en Chine. C'est actuellement en réapprovisionnement à la Caverne du Gobelin. Hein, c'est la malédiction des jeux du mois. Ils sont rarement disponibles. Mais bon, là, c'est en réappro et ce sera au prix de 27,90€ à la Caverne. Alors, le principe, je ne sais pas si tu y as joué, toi, Bartouf.
Oui.
Oui, tu y as joué, donc on pourra en discuter. Mais le principe, c'est un simple jeu de loi, en fait. On jette des dés, on fait la course. On a vendu le nombre de cases que le dé indique et le premier arrivé a gagné. Et c'est à peu près tout. Enfin, c'est pas tout à fait vrai parce qu'on va faire quatre fois. On va faire quatre fois la course et c'est tout. Enfin presque, parce qu'à chaque fois, à chaque course, on va jouer un athlète, un personnage. Et en fait, chaque personnage a un effet, comment dire, un peu pété. Donc c'est vraiment ça qui va faire le sel du jeu, mais on y reviendra un petit peu dans la partie plus critique. Voilà. Retenez, si vous ne connaissez pas du tout, un jeu de loi avec des personnages complètement buggés, pétés, tout ce qu'on veut. Mais avant d'attaquer plus en détail ce qu'est le jeu et comment ça marche, je voulais offrir un petit historique que j'ai préparé d'ailleurs avec Flavien, puisque Flavien, on était plusieurs à vouloir faire ce jeu dans les jeux du mois, et donc j'ai préparé certaines parties un peu avec Flavien. Mais le jeu, du coup, historiquement, a été créé en 2003 par Takashi Ishida, donc au Japon. Et il a été micro-édité au Japon, c'est quelque chose qui se fait beaucoup au Japon, c'est les auteurs eux-mêmes éditent des petites versions à très peu de tirage, ils s'auto-éditent. Et le jeu a été ensuite localisé aux États-Unis par Z-Man en 2010. Et c'est un jeu qui était que pour 4 à 5 joueurs, joueuses, 4-5 uniquement, et bah en fait qui a fédéré une certaine communauté, parce que entre 2010, la version Z-Man, et aujourd'hui, la version qui est rééditée par CMYK et qui est portée en France par Yellow, il s'est rien passé. En fait, il n'y a pas eu de succès commercial à l'époque par la version Z-Man. Le jeu est passé un peu sous le buzz. Par contre, ça a été un vrai succès, on va dire, communautaire, culte. Parce qu'il y a eu tout un tas de fans qui ont fabriqué plein de variantes, qui ont fait des extensions en print and play, qui ont fait des versions maison, qui ont changé les artworks. Donc pendant quasiment 20 ans, hein, si on part de 2003, pendant plus de 20 ans même, le jeu a vécu sa vie sur des circuits un peu alternatifs, hors des sentiers commerciaux classiques. Et Garfield d'ailleurs, hein, alors je vais beaucoup citer un carnet d'auteur de Garfield qu'il a fait sur BGG. Je vous invite à aller lire. Alors c'est en anglais, mais maintenant bon, vous pouvez faire des traductions qui sont quand même assez fidèles avec différents outils. Mais du coup, Garfield a écrit tout un carnet d'auteur sur Athlète de compète, sur Magical Athlète, sur BGG. Donc j'ai puisé pas mal d'infos là-dessus. Et en fait, Garfield, lui, est un fan du jeu. Depuis 20 ans, enfin, il fait partie de cette fanbase qui a designé, bricolé plein de personnages, plein de pistes, etc. Donc il dit que voilà, il en avait déjà fait pas mal, et il dit aussi qu'il cherchait à contacter Ishida depuis pas mal de temps. Alors je sais pas quel moyen il a mis pour essayer de le contacter, parce que j'imagine que quand on est Richard Garfield, on arrive quand même facilement à contacter un autre auteur, mais apparemment il a eu un peu de mal. Il voulait le contacter juste pour le remercier, pour lui demander s'il envisageait une réédition, et pour lui dire que ça marchait super bien avec des enfants, même assez jeunes. Lui-même avait bricolé ou avait game designé une version un peu enfant. Et en fait, quand CMYK a eu les droits, c'est eux qui sont venus chercher Richard Garfield pour travailler sur une réédition, sur un remake même. On verra que c'est plus qu'une réédition. Et pourquoi en fait CMYK a contacté Garfield? Déjà parce qu'a priori Ishida était à moitié à la retraite et voulait plus spécialement bosser sur un remake. Et comme je disais, c'était a priori une notoriété publique aussi que Garfield était un giga fan du jeu, et donc CMYK, qui en plus est un éditeur américain, c'est naturellement tourné vers Garfield pour faire ce remake. Et comme je dis, donc c'est un remake, on verra pourquoi, c'est pas une simple réédition, notamment sur la manière d'acquérir les athlètes, je détaillerai un peu plus tard. Et c'est d'ailleurs pour ça que si vous allez sur BGG, il y a deux fiches indépendantes, distinctes, du Magical Athlète de 2003 et de 2010 qui a été édité par Z-Man, et celui qui est ressorti l'année dernière pour sa VO et cette année pour la version française. Alors, vu l'aura un peu qu'avait ce jeu d'origine, hein, comme je vous l'ai dit, alors que moi j'en avais pas spécialement connaissance, hein, moi j'en ai entendu parler fin de l'année dernière, je ne savais pas que ce jeu avait une telle aura, je n'avais pas connaissance de l'existence du jeu de 2003 et de la version Z-Man de 2010. Mais comme il avait quand même une certaine aura, quand la VO, la nouvelle VO est sortie, fin de l'année dernière, il y a eu quand même un certain buzz, fin 2025, début 2026. Mais du coup, de mon côté, j'ai pu y jouer que au week-end proxy jeu. Alors comme souvent, c'est exactement la même histoire que Rebirth. J'y ai joué grâce à Flavien, qui l'avait ramené en VO au week-end proxy jeu de cette année, 2026. Puisque la VF n'est sortie que courant de l'été, là, 2026. Je sais pas où toi tu l'as découvert et où t'as pu y jouer et à quel moment, Bartouf.
Eh ben moi c'était l'année dernière après le week-end proxy jeu. Flavien avait dit, enfin il nous avait fait jouer à Hot Streak en VO justement, oui. Et il disait beaucoup de bien de ce jeu-là, de Magical Athlete. Et du coup, en fait quand j'avais commandé Hot Streak, j'avais pris Magical Athlete avec en me disant allez go, confiance.
En VO. Ouais.
En VO. Et donc ça fait déjà un an effectivement moi aussi que j'y joue.
Très bien. Alors je vais rentrer un peu plus dans les règles parce que je vais faire un petit peu le pitch de manière un peu caricaturale. Mais globalement, comme vous l'avez compris, dans la boîte de Magical Athlete, il y a 36 athlètes différents avec plein de pouvoirs. En gros, on va révéler une première fois deux fois plus d'athlètes qu'il y a de joueurs. Par exemple, si vous êtes trois joueurs ou quatre, on va révéler 6 ou 8 athlètes. Et on va faire un snake draft. Alors, snake draft, je pense que Cyrus l'a déjà aussi expliqué dans Hot Streak. C'est marrant, il partage ça aussi, il partage l'éditeur, il partage un certain nombre de trucs avec Hot Streak, mais on y reviendra. Donc, un snake draft, c'est le premier joueur ou la première joueuse va prendre une carte, puis chacun son tour va en prendre une, puis arrivé au dernier joueur ou la dernière joueuse du draft, elle va en reprendre une et on va repartir dans l'autre sens. C'est-à-dire que le premier choisi en premier et en dernier, et le dernier choisit les deux cartes de manière consécutive. Et à ce moment-là, on commence un peu aussi l'échauffement du lancer de dés parce qu'on choisit qui va commencer à choisir par un lancer de dés. Vous verrez qu'on n'a pas fini de lancer des dés. On fait ça deux fois, puisque on va devoir avoir chacun 4 athlètes, puisqu'il y a 4 courses en tout. Donc on fait un premier snake draft pour récupérer 2 athlètes, on révèle à nouveau des cartes et on fait un deuxième snake draft pour avoir 2 athlètes supplémentaires. Et ça c'est une des grosses modifications justement par rapport au jeu d'origine. Le jeu d'origine c'était une espèce de draft enchère, il y avait une espèce de rivière où les athlètes avaient un certain coût, et si les athlètes n'étaient pas pris, leur coût diminuait, et on rajoutait un athlète avec un prix plus cher, etc. Enfin, c'était un système un peu bizarre. Là, c'est vachement simplifié avec le snake draft, et c'est un peu plus direct. D'ailleurs, pour une première partie, la règle du jeu recommande de juste piocher 4 athlètes au hasard, sans draft, ça marche aussi. On verra que le draft a quand même un certain intérêt. Et avant chaque course, du coup, tout le monde va choisir un athlète qui va envoyer pour cette course-là, et on va les révéler simultanément, et on part dans la course, quoi. Et chaque athlète, c'est important, ne sert qu'une seule fois. Donc c'est vraiment, il y a un côté de, je l'utilise pour une course, et après, j'ai les 3 suivants. On a un deuxième échauffement au dé, hein, pour savoir qui commence la course à lancer, puis après, jeu de loi, hein, on lance le dé, on avance du résultat. Lancer le dé, c'est ce qu'on appelle le déplacement principal, il y a beaucoup de pouvoirs qui s'y réfèrent, il y a d'autres manières d'avancer, hein, justement, à travers des pouvoirs. Et les pouvoirs se déclenchent dans un ordre donné. C'est pour ça qu'on précise que c'est la phase de déplacement principal quand on jette le dé et qu'on avance. Globalement, il va se passer plein de choses. Et la course s'arrête dès que 2 athlètes ont franchi la ligne d'arrivée. Il y a un trophée en or pour le premier, une médaille en argent pour le second, qui vaut un peu moins de points. Et il y a d'autres petits points en bronze aussi qui peuvent être gagnés par ailleurs. On fait, comme j'ai dit, 4 courses au total. Et la piste, le plateau, il y a 2 faces aussi, c'est important. Il y a une face vraiment qui s'appelle pépère, où le plateau est complètement vierge et lisse. C'est-à-dire que il n'y a que les lancers de dés et les pouvoirs qui peuvent créer, on va dire, des événements et des situations. Et il y a un deuxième plateau, enfin le deuxième côté du plateau, qui est un plateau qui s'appelle galère, avec un peu comme le jeu de loi justement, des cases qui vont créer soit des bonus, soit des malus, qui peuvent te tirer en avant, en arrière, qui peuvent te rapporter des points, qui peuvent te faire tomber. On reviendra sur la notion de chute. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que les points de victoire, les trophées, sont empilés en ordre décroissant. Donc la première course vaut assez peu de points de victoire, et la dernière en vaut beaucoup plus. Chaque course vaut plus de points que la précédente. Et donc c'est avantageux aussi de garder ses meilleurs athlètes pour les dernières courses. Et là c'est aussi important dans les décisions qu'on va pouvoir prendre au cours du jeu. Pour vous donner quelques aperçus des pouvoirs, parce que c'est là-dedans que ça se joue, hein, vous le sentez bien que, bon, jeu de loi, c'est pas passionnant, c'est vraiment les pouvoirs qui vont un peu twister le jeu. Il y a 36 pouvoirs, donc il y en a beaucoup, je vais pas tous les citer, je vais plus vous dire qu'il y a plusieurs catégories de pouvoirs en fait. Il y a des pouvoirs qui vont être vraiment des moteurs qui vont permettre d'avancer plus. Guibol par exemple. Je cite les noms français, j'ai pas les noms anglais, j'ai le jeu en version française, donc Guibol, c'est un personnage avec bien sûr des grandes jambes, hein, comme son nom l'indique. Lui, il peut renoncer à lancer le dé, vous lancez pas le dé, et vous dites, vous pouvez choisir, hein, soit je lance le dé, soit je lance pas, mais si vous le lancez pas, vous avancez de 5 à la place. Plutôt intéressant. Il y a des pouvoirs conditionnels, il y a Lièvre Rapide par exemple, qui dit que vous avancez de plus 2 à tous vos déplacements principaux, mais si vous êtes seul en tête... Si vous commencez votre tour seul en tête, vous vous déplacez plus vite, donc vous allez mécaniquement arriver premier assez vite, vous ne bougez pas du tout. Si vous êtes en tête, bah c'est un peu le lièvre du lièvre et de la tortue. Hein. Si vous êtes devant, vous arrêtez. Il y a des pouvoirs vraiment à double tranchant. Il y a Sisyphe par exemple. Lui, il démarre avec 4 jetons bronze, donc 4 points de victoire finalement, ce qui peut être assez fort. Mais dès que vous faites un 6, vous revenez à la case départ et vous perdez un point de victoire. Donc c'est un peu genre, il est fort, mais faut pas faire des 6 avec lui, donc c'est un peu à double tranchant. Il y a vraiment plein de pouvoirs qui sont des pouvoirs parasites. Je pense le plus chiant, c'est Sacapus. Lui, quand vous avancez d'une case, à chaque fois que quelqu'un déclenche son pouvoir, dès que le pouvoir d'un autre athlète se déclenche, Sacapus, il avance d'une case. Voilà, il a pas d'autre pouvoir que ça. Après, il avance aussi en lançant son propre dé, hein, mais sinon, il fait rien par lui-même. Hein, c'est juste, il vampirise un peu dès que les autres... utilisent leur pouvoir. Il y a des pouvoirs vraiment des choses qu'on ne pensait plus voir en 2026, mais c'est ça qui est drôle dans le jeu, c'est il y a le pouvoir du personnage qui est la bouche. Alors bouche, c'est un acronyme, il y a des points entre chaque lettre, c'est en majuscule, mais bouche, si elle s'arrête sur une case qui est occupée par un autre athlète, s'il est seul, elle le mange et l'athlète est éliminé. Ciao, bye bye, la course est finie. Heureusement qu'il y a 4 courses, parce que quand bouche est en jeu, c'est un peu... voilà. Vous êtes éliminé purement et simplement. Il y a des pouvoirs de sabotage un peu plus passifs, comme la banane par exemple, qui fait trébucher tout athlète qui la dépasse. Donc trébucher, c'est votre athlète tombe à terre, et du coup vous passez un tour, puisque vous allez devoir utiliser le tour suivant à vous relever. En gros, c'est passe ton tour la prochaine fois, quoi. Et il y a quand même pas mal de pouvoirs aussi qui nécessitent la décision de la part du joueur. Alors déjà, avec Guibol, vous avez vu, vous avez le choix d'utiliser le dé ou d'avancer de 5. Il y a quand même pas mal de pouvoirs qui sont facultatifs, vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Ce qui va aussi empêcher, par exemple, Sacapus d'avancer si vous n'utilisez pas votre pouvoir. Et il y a d'autres pouvoirs qui sont vraiment où il faut décider, comme Docteur Fusée, par exemple, qui peut doubler le résultat de son dé. Après avoir lancé le dé, vous pouvez choisir de doubler le résultat. Mais dans ce cas, vous trébuchez et donc vous passez votre tour suivant. Donc voilà, c'est des arbitrages à faire. Ou il y a le génie aussi qui peut rejouer si vous arrivez à prédire la valeur du lancer. Donc vous dites, je pense que je vais faire un 3, vous lancez le dé. Si vous faites un 3, vous pouvez rejouer. Et potentiellement, vous pouvez faire ça plusieurs fois de suite. Et voilà, comme je disais, je vais pas m'attarder trop sur les pouvoirs, parce qu'il y en a 36 comme ça, plus ou moins loufoques, plus ou moins pétés, plus ou moins intéressants aussi en fonction du contexte, parce que c'est ça qui est important dans ce jeu, ça va être le contexte, quelle piste, quel autre athlète qui sont présents pendant la course, etc. Donc le contexte est assez important. Bon, vous sentez un peu le truc venir, c'est un petit peu... un petit peu chaotique, mais ça a l'air assez drôle comme ça. Je sais pas si tu partages cet avis, Bartouf. Mais je voulais décrire un petit peu, décououper la critique ou la sensation ou l'analyse du jeu en trois refus en fait. Trois choses que le jeu refuse de faire et qui sont vraiment inhabituelles, on va dire, dans le jeu moderne tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et c'est à mon sens ça qui crée en fait toutes ces émotions et toutes ces sensations autour de la table. Du coup, le premier refus, déjà, c'est celui de... Alors, j'ai appelé ça la décision garantie. On pourrait dire plutôt la sensation de contrôle. En fait, dans les jeux modernes, depuis que le jeu moderne existe, hein, mais la tendance a été plutôt de réduire et de lisser la part de hasard. Voilà, on a plus des bonnes payes, qui est une variante du jeu de loi, des monopolies, des choses où le hasard est très présent. On essaye plutôt d'augmenter... et souvent de garantir une certaine, en tout cas une sensation de contrôle, un certain contrôle ou une certaine sensation de contrôle. Ici, les choix Et le contrôle se retrouve essentiellement dans le draft au début de la partie et dans le choix de l'athlète qu'on envoie sur quelle course. Mais après, pendant la course, c'est là où on rejoint un peu aussi Hotstrix et d'autres jeux du type, on est essentiellement spectateur de ce qui se passe. On va lancer des dés et advienne que pourra, il va se passer plein de trucs. Et donc on est un petit peu plus passif. Et je conçois que ça ne plaise pas forcément à tout le monde. Mais comme je l'ai un peu dit dans l'explication des pouvoirs, il y a quand même pas mal de personnages qui nécessitent des prises de décision pendant la partie, qui peuvent être plus ou moins légers, plus ou moins marqués. Déjà parce qu'une grande partie, je l'ai déjà dit, des pouvoirs sont facultatifs. Et c'est marrant parce qu'il y a pas mal de critiques négatives, quand on parle du jeu, il y a pas mal de critiques négatives qui s'appuient sur ce manque de contrôle et sur ce hasard qui serait trop présent, alors qu'au final, il y a quand même beaucoup de décisions à prendre durant une partie. Ça, c'est aussi appuyé par le fait que si vous faites plusieurs parties de athlètes de compète, vous allez sentir une vraie courbe d'apprentissage qui est assez évidente, en fait, qui est complètement, on va dire, invisible à la première partie. On a vraiment l'impression que c'est du pur hasard. Mais plus vous faites de parties, plus la courbe d'apprentissage, elle va se dessiner. Et on va accumuler de l'expérience par rapport aux configurations, connaître si un champion est bon ou pas de manière un peu absolue, mais surtout connaître les bons ou les mauvais match-up, tel champion avec tel autre, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vient après plusieurs parties. Ensuite, il y a un autre aspect, c'est que l'information s'épuise. Alors, c'est dû aussi au retravail, à la variante, on va dire, enfin, la nouvelle manière d'acquérir des athlètes dans la version de Garfield. Mais le draft est public, on sait quelle personne prend quoi. On sait juste pas à quel moment les personnes vont les jouer. Et à mesure que les courses passent, forcément, on sait ce qui reste plus ou moins dans la main de chacun. Donc c'est quelque chose auquel on fait pas vraiment gaffe sur ses premières parties. Mais à force de faire des parties, on va savoir un peu que y a tel personnage. En course 1, on sait pas ce qui va être joué. Mais on sait aussi que les gens ont intérêt à garder plutôt leur meilleur athlète pour les dernières parties. Et course 4, tu sais exactement normalement ce que ton adversaire va poser. Bon, c'est un peu contrebalancé parce que toi, tu n'as plus le choix non plus dans ce que tu vas poser. Il te reste qu'une seule carte, tu la poses. Mais c'est intéressant, et justement les récompenses, le fait que la valeur des points augmente d'une course à l'autre, c'est justement aussi, je pense, en partie dû au fait que le hasard diminue un petit peu. Il y a toujours beaucoup de hasard, hein, mais que le hasard quand même diminue d'une partie à l'autre, puisque on sait de plus en plus ce qui reste en main de l'adversaire, et donc les probabilités de savoir un peu ce qu'il va jouer ou ce que les adversaires vont jouer est plus importante. Donc il y a quand même, dans un jeu qui est beaucoup décrit comme un jeu de pur hasard, il y a quand même trois sources de contrôle qui sautent pas forcément aux yeux durant les premières parties, mais qui deviennent plutôt évidentes au fur et à mesure. Ça, c'était le premier refus, c'était le refus de cette sensation de contrôle qu'on met beaucoup dans les jeux aujourd'hui. Le deuxième refus, ça on l'a déjà vu dans d'autres jeux, c'est le refus de l'équilibrage. Les athlètes sont volontairement inégaux, en fait, parce que c'est pas un jeu qui peut être équilibré, en fait. Ce serait beaucoup trop compliqué d'équilibrer 36 athlètes avec des pouvoirs pétés comme ça. Donc les athlètes sont quelque part volontairement inégaux et déséquilibrés. Et ça va un petit peu avec ce côté de spectacle sportif, finalement. Garfield, dans son carnet d'auteur, il parle justement de théorie de la dramaturgie sportive. C'est ça qui va générer justement des situations et des événements, des situations improbables. Et c'est pas, on va dire, un défaut qui est toléré, c'est vraiment le moteur dramatique du jeu. Et en ça, Athlète de Compète partage ça avec un autre jeu, avec le jeu qui a priori inspiré Takashi Ishida et dont on reparlera après, qui est Rencontre Cosmique, puisqu'il y a aussi ce côté pouvoir complètement pété qui change toute la physionomie et toute la dramaturgie du jeu. Et si j'essaye de traduire ce que dit Garfield dans son carnet d'auteur, et si je vous le cite, il dit quelque chose comme « Il est très important d'avoir des courses où les joueurs peuvent anticiper qui va gagner et qui va perdre, parce qu'il est agréable de connaître le résultat probable et d'avoir eu raison, et c'est seulement à cette condition qu'on peut obtenir un véritable renversement, la chose la plus excitante qui puisse arriver dans une course. » Et en fait, effectivement, le fait qu'il y ait des personnages plus forts et que on puisse imaginer que la course est pliée d'avance, on sait que c'est lui qui va gagner et qu'il se passe quelque chose d'autre, c'est ça qui crée aussi des moments ultra excitants dans Athlète de compète. Si on prend l'exemple de Tong, par exemple, son pouvoir, c'est d'échanger sa place avec un autre joueur. Donc, théoriquement, il peut traverser l'intégralité de la piste d'un seul coup, mais il dépend toujours de la position d'un autre athlète. Donc, c'est très fort, mais en même temps, c'est très contextuel et en fonction de ce qui se passe, ça peut être ultra fort, comme ça peut être un peu naze, quoi. Si on a que des personnages qui avancent très doucement ou s'il n'y a pas de disparité entre les autres personnages, échanger avec le premier, ça n'a pas forcément un gros intérêt. Alors que s'il y a vraiment des personnages qui sont en tête, voilà, c'est vraiment contextuel. Donc le refus de l'équilibrage, c'est inhérent au jeu. Et le troisième refus, qui est un petit peu plus étonnant, c'est le refus de la rigueur. Surtout dans un média, les jeux de société qui sont normalement bornés à des règles très strictes, très, très finies, où on sait un peu... tous les cas sont un peu connus. Ici, c'est un jeu qui produit des boucles infinies, par exemple. La règle stipule que s'il y a une boucle infinie, on la fait une fois et puis après on l'arrête, mais c'est un jeu qui peut produire des boucles infinies, c'est pas si fréquent. C'est un jeu où certaines interactions entre les personnages ne sont pas vraiment tranchées et pas explicitées ni dans une règle ni dans une FAQ. Il y a des situations où c'est juste démerdez-vous, quoi. On sait pas. Nous éditeurs, nous auteurs, on sait pas quoi faire précisément dans ce cas-là. Et d'ailleurs, c'est marrant, alors je sais pas si c'est le cas, mais je n'ai trouvé une FAQ que chez Yellow en français. Il y a une FAQ qui est assez marrante d'ailleurs, Yellow a édité une assez grande FAQ, mais que je n'ai pas retrouvé en version en VO en fait. Et justement, dans les interviews ou dans les descriptions que j'ai pu trouver plutôt sur les sites américains et en VO, il y a une volonté justement de pas résoudre un peu tous les cas. Donc c'est marrant de voir que Yellow en a quand même fait une. Et ce truc de rigueur aussi, c'est d'autant plus marquant que Garfield, qui est quand même l'auteur de Magic, hein, qui a, je sais pas si on peut dire ça, mais inventé les systèmes de priorité, de piles, qui a passé presque 30 ans à construire un appareil un peu juridique pour les JCC. Dans son carnet d'auteur, il dit qu'il s'attendait à devoir vachement nettoyer les règles, justement, à créer plein de systèmes de priorité, etc. Mais au contraire, on lui a dit de garder le flou, en fait, que le flou faisait partie du jeu. Alors, il y a quand même un petit ordre de priorité, hein. C'est d'abord, s'il y a un effet de case, c'est d'abord l'effet de la case, ensuite c'est l'effet du joueur actif, et après c'est les effets des autres joueurs, dans un sens horaire. Voilà, c'est précisé. Mais à mon avis, ça règle peut-être 10% des problèmes d'interaction qu'il peut y avoir dans le jeu. Et ce refus de la rigueur, c'est peut-être, comme je disais, le plus étonnant. Surtout quand on additionne ça aux deux autres refus au départ, hein, donc le refus d'équilibrage et le refus de contrôle total. Ça, vu comme ça, ça a l'air d'être vraiment un gros bordel. Mais c'est stipulé dans la règle. Je vais citer une partie de la règle qui est écrit en noir sur blanc dans la règle. Il y a écrit: si quelque chose d'inattendu se produit, consultez ce guide. Il y a quand même un petit guide pour aider à comprendre bien les pouvoirs dans la règle, mais c'est consultez ce guide ou laissez-vous porter par les événements. Acceptez le chaos et les discussions sur les règles, cela fait partie du plaisir du jeu. Donc ils assument en fait que une partie du jeu soit de discuter de mais non, mais c'est pas comme ça qu'il faut l'appliquer, c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Ce qui fait partie aussi, ça m'est arrivé encore récemment d'avoir des parties où on se prend un peu la tête sur savoir comment appliquer un pouvoir et si on peut l'appliquer ou pas. Et plus loin dans la règle, il y a écrit clairement: et si vous êtes complètement bloqué, lancez les dés pour décider qui a raison. Voilà, pur chaos. Mais c'est ça qui est très, très drôle dans ce jeu. C'est vraiment, voilà, il n'y a aucune rigueur dans les règles. Enfin, pas aucune, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui marchent bien, mais il y a cette ouverture à ça peut être tout et n'importe quoi, et si vous n'êtes pas d'accord, lancez un dé, quoi. Et du coup, je comprends vraiment que ça puisse ne pas plaire à certaines personnes, hein. Si on cumule ces trois refus, sensation de manque de contrôle, pouvoir déséquilibré, bordel dans les règles qui est plutôt assumé, je comprends totalement que ça peut rebuter un certain nombre de personnes. Mais de mon côté, c'est justement, je trouve, ce qui fait tout le charme du jeu. Ce qui fait que quand on joue à une partie, il se passe plein de trucs et ça ressemble à aucun autre jeu auquel on a joué finalement. Enfin, à aucun autre. Il faut quand même, voilà, je l'ai cité déjà, mais Rencontre Cosmique, hein, qui est un cousin plus ou moins aliéné, plus ou moins éloigné, et avec qui il partage ce côté règle assez simple, hein, on peut expliquer les règles, et après le twist qui arrive avec bah, les pouvoirs complètement pétés. Donc dans Rencontre Cosmique, c'est des peuples extraterrestres qui ont chacun un pouvoir particulier. Dans Athlètes de Compète, c'est les athlètes qui ont des pouvoirs. Donc c'est des jeux très différents après dans leur déroulé et dans leurs règles, mais on retrouve quand même certaines sensations entre les deux. Et comme je le disais, j'ai lu, alors j'ai pas vu de citation directe de Takashi Ishida, mais j'ai vu plusieurs articles qui disaient clairement que c'était une inspiration, enfin l'inspiration première de Takashi Ishida quand il a fait Athlète de Compète, c'était Rencontre Cosmique. On peut pas non plus passer à côté, on l'a déjà dit, de jeux comme Hot Streak, hein, dernier jeu du mois en date, du coup aussi édité par CMYK, donc c'est vraiment deux jeux qui se rapprochent. Et des cousins de Hot Streak aussi, hein, comme les Camel Up, etc., où les joueurs sont vraiment spectateurs de situations un peu rocambolesques. Mais le plaisir est un peu différent, parce que quand on prend un Hot Streak ou un Camel Up, l'implication des joueurs, c'est sur les paris. Et ça va forcément créer une interaction un peu plus orientée, parce qu'il y a le plaisir du turfiste, hein, le côté paris, le côté est-ce qu'il va arriver... finalement le côté peu importe qui gagne tant que mon pari est rempli, alors que dans Athlète de Compète on a plutôt un plaisir un peu de supporter ou de coach, tu vois, c'est vraiment je suis dans les tribunes et je suis vraiment pour cet athlète là et j'ai envie qu'il gagne et je vais être spectateur de ce qui lui arrive, quoi. Je vais être très déçu si il est dernier, qui tombe, qui part en arrière, etc. Et au contraire, je vais être très content, assez excité si je vois qu'il est en tête et que il va peut-être gagner et que voilà, ça va se jouer sur le fil. Enfin, il y a vraiment ce côté spectacle. Et là où les deux jeux se rejoignent entre Hot Streak et Athlète de Compète, c'est vraiment ce côté jeu à événement, situation, côté très déjanté aussi. Pas de la même manière, mais c'est deux jeux qui sont très très déjantés. Et ce côté aussi assez régressif, on a une joie ou des sentiments qui sont assez qui sont proches de choses qu'on peut ressentir aussi quand on est enfant, en fait. Petite excitation comme ça, on sait pas trop d'où elle vient, mais on a ce côté un peu régressif du jeu. Ce que je disais aussi, ce qu'on retrouve un peu dans Vroom aussi, dont je parlais lors du débrief de Cannes. Il y a ce côté aussi, les objets, tout le matériel, hein, mais on va justement venir au, en parlant de régressivité, on va venir au matériel. Mais le matériel joue aussi beaucoup sur cette sensation. Hot Streak pareil, hein, Hot Streak avec les figurines, ici c'est un autre style, mais il y a aussi une sensation un peu nostalgique avec les pions en bois qui sont grands, qui sont épais, qui sont sérigraphiés. Chaque athlète a sa propre silhouette. C'est pas 36 fois le même meeple avec des couleurs différentes ou juste un autocollant. C'est vraiment la silhouette qui est unique. Les dés en bois qui sont bien, des bons gros dés en bois là, comme on avait dans dans des vieux jeux là, bien old school. Et puis CMYK oblige aussi, hein, les illustrations. Tout est fait pour que vous ayez vraiment l'impression, avec Athlète de Compète, de ressortir un jeu qui viendrait tout droit des années 70, quoi. D'ailleurs, les illustrations d'Angela Kirkwood, que personnellement j'adore, mais c'est un peu clivant. C'est un univers un peu psychédélique. Il y a un mélange un peu de côté un peu Yellow Submarine des Beatles. Et je sais pas si vous voyez les cartes à collectionner, un peu les crados, là. Il y a un peu ce côté-là aussi... En plus soft, hein, c'est pas le côté un peu dégueu des crados, mais graphiquement il y a ce timbre là un petit peu, il y a cette vibe. Pour moi, ça rajoute encore un peu au côté régressif, un retour en enfance, ce truc là. Et d'ailleurs, je crois que dans les références, hein, d'Angela Kirkwood pour travailler sur le jeu, il y a d'ailleurs Yellow Submarine des Beatles, et il y a aussi une série qui s'appelle Schoolhouse Rock, qui est jamais arrivé en France, mais vous avez peut-être déjà vu des images. Donc si vous cherchez Schoolhouse Rock, vous verrez, la référence et l'affiliation est assez marquant avec Athlète de Compète, mais c'est vraiment un style qui est un peu, qui est dans l'inconscient collectif, tu vois. C'est un style qui qui est un marqueur un peu des années 70. Ce qui est marrant aussi, c'est que à la base, le jeu d'origine est dans un monde un peu plutôt fantasy. Enfin, c'est des illustrations un peu anime, manga, etc., mais dans un univers plutôt fantasy. Du coup, quelque chose qui est plutôt familier à Richard Garfield, hein, puisque il a bossé beaucoup dans des univers fantasy. Mais là, du coup, l'éditeur est parti sur un truc beaucoup plus psyché, quoi. Donc, pas forcément un univers familier pour Garfield.
Mais du coup, tu vois, ça, je pense que c'est bien vu de leur part, parce que si t'as été sur un univers dont on a l'habitude dans les jeux de société, bah certainement qu'il y a plein de gens qui se seraient plantés en prenant ce jeu-là.
Ouais.
Alors que là, tu vois, tout de suite, tu te dis, oh là, ça
Il y a
propose
un
quelque
truc
chose
clivant,
de...
ouais.
Ouais, c'est... Voilà, on part ailleurs.
Oui, tout à fait. Tu te dis, bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais peut-être regarder ce que c'est avant de l'acheter, quoi. Après, c'est un peu dans l'ADN de CMYK, hein, d'avoir des jeux qui sont aussi un peu des objets artistiques, des trucs qui s'identifient immédiatement de loin. Hein. Enfin, tu prends Outstrick, c'est pareil, la boîte ressemble à pas grand-chose d'autre. Même tu prends Lacuna ou Wavelength, c'est vraiment des objets qui sont assez, enfin qui sont très forts visuellement. Mais je trouve que des fois c'est un peu au risque d'écraser un peu le jeu en lui-même, tu vois. Par exemple, Lacuna, moi, je l'ai pas trop aimé. J'ai vraiment ce sentiment que tout est dans un peu l'emballage et le matos et tu vois le contexte et que le jeu en lui-même souffre un peu de ça, quoi. Enfin, le jeu aurait pu être mieux, mais ils ont tout misé sur le côté visuel, quoi. Bon, c'est pas le cas pour Athlète de Compète, bien sûr, mais ouais, c'est un peu. C'est un peu un truc chez CMYK qui a double tranchant, je trouve. Alors, le jeu est clairement tout public, hein, franchement. C'est un peu la force du jeu aussi, c'est que il est marqué à partir de 6 ans. Et c'est vrai, techniquement, un enfant de 6 ans peut y jouer et il va peut-être pas comprendre tout ce qui se passe, mais il sait lancer le dé, avancer son personnage d'un certain nombre de cases et appliquer les pouvoirs si on lui explique un peu qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faut appliquer. Donc voilà, des enfants de 6 ans peuvent s'amuser comme ils s'amuseraient sur un jeu de loi, mais avec les pouvoirs loufoques, je pense que c'est encore plus amusant pour un enfant. Et comme on le disait, avec quand même quelque chose de plus profond pour des gens qui ne sont pas des enfants, ça s'adresse très bien aux adultes aussi. Déjà avec le côté un peu décalé, un jeu qui est décalé dans tous les sens. Hein, quand vous lisez la règle et tout ça, enfin tout est décalé. Mais il y a aussi voilà, c'est il y a une simplicité de surface, mais comme on le disait, il y a quand même plusieurs couches de décision. Il y a quand même une courbe d'apprentissage, courbe de progression. Donc c'est pas juste un jeu de hasard qui marche avec les enfants, c'est un jeu qui peut aller plus loin que ça. Par contre, c'est clair, j'ai déjà un peu dit, mais que c'est pas fait pour plaire à tout le monde. Et c'est surtout pas fait pour plaire à des gens qui s'attendent à quelque chose de sérieux, quoi. Qui s'attendent à le jeu, c'est sérieux, on va se mettre autour de la table et on va faire un jeu de société sérieux, où il va falloir réfléchir, il va falloir. Tu vois, c'est aussi une petite bouffée d'oxygène, je trouve, dans un monde ludique où le jeu est parfois un peu trop sérieux.
Oui, voire même calibré, alors que là, t'as l'impression que
Ouais.
c'est barré 100%, enfin.
Ouais, complètement. Complètement. C'est complètement du lâcher-prise.
Ouais.
Alors, j'allais dire dans le game design, c'est du lâcher-prise, mais pas totalement, parce que je pense qu'il y a plein de choses qui sont réfléchies. Mais il y a cette sensation de lâcher-prise et de m'en foutiste un peu dans le design même, quoi. Même si c'est pas le cas, voilà, je suis persuadé que c'est pas le cas, mais. Cette sensation que ça donne, et c'est moi je trouve ça cool. Sur les configurations, c'est clairement meilleur sur des configurations à 5 ou 6 selon moi. Hein. Moi j'ai surtout joué entre 4 et 6. J'ai jamais joué à 2 ou 3. Et puis là, c'est vraiment le jeu qui confirme l'adage, plus on est fou, plus on est de fou, plus on rit, parce que plus il y a de personnages, plus il y a de pouvoirs, plus il se passe de trucs. Bon, à 4, c'est ok, hein. Le jeu d'origine est d'ailleurs fait pour 4-5. Et à 2 et 3, il y a des variantes qui ont été faites. Il y a des règles particulières pour jouer à 2 et 3. Où, en gros, chaque personne va prendre deux athlètes à chaque course. Donc, en fait, On va faire avancer deux athlètes. On va avoir deux cartes devant nous et on va faire avancer deux athlètes à chaque course. J'y ai jamais joué avec cette variante. Quand j'ai lu la variante, je me suis un peu dit que c'était un truc béquille pour dire on justifie qu'on le met à moins en fait pour élargir on va dire les configurations possibles. Et en fait, pareil, en lisant le carnet d'auteur de Garfield, j'ai vu que c'était un truc qui était qui a pas vraiment été prémédité. C'est juste que lui testait pas mal le jeu, il bêta testait pas mal le jeu avec ses jumeaux, il a des jumeaux, et qu'il y en a un des deux qui est tombé malade, et donc il s'est retrouvé dans une configuration où ils étaient plus qu'à deux ou trois à tester, avec justement des interactions qui chutent énormément quand t'en es moins, hein, parce que si t'as deux ou trois personnages en piste, bah autant te dire que les pouvoirs et les interactions entre les personnages sont un peu nazes. Et en fait, pour éviter ce côté un peu ennuyeux, il s'est dit bah on prend deux coureurs chacun. Et il a rajouté une règle en disant bah on a deux coureurs chacun. Mais on choisit l'ordre dans lequel on les déplace. C'est-à-dire que je vais avancer deux personnages d'un coup, je vais lancer deux fois le dé, mais je choisis en gros lequel je vais avancer avant et lequel je vais avancer après. Et a priori, j'ai pas testé, je peux pas dire si c'est si bien que ça, mais pour Garfield, dans son carnet d'auteur, il dit que ça a été une sorte de révélation, puisque ça introduit un côté un peu plus stratégique, parce que tu peux essayer justement de synergiser tes deux athlètes. Tu peux essayer de prendre deux athlètes qui peuvent... synergiser positivement ou négativement, mais du coup comme tu choisis dans l'ordre dans lequel tu les fais avancer, ben tu peux beaucoup plus jouer sur les relations qu'ont les pouvoirs entre eux. Donc voilà, sûrement un jeu assez différent. Je sais pas si tu l'as essayé à deux ou trois toi.
Moi j'ai fait à trois, mais sans la variante. Et
ouais, donc chiant, quoi.
Bah c'est ça. Bah en fait t'as beaucoup moins d'interactions. En fait il y a beaucoup moins d'effets qui se font parce qu'on est moins nombreux sur la piste à se marcher dessus et effectivement c'est beaucoup plus moins bon clairement.
Ouais. Ouais mais voilà je suis curieux d'essayer cette variante à 2-3 voir si ça ça m'a l'air d'être un jeu assez différent du coup. Mais à tester. Si vous l'avez vous-même testé, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous trouvez ça bien, mieux, moins bien. N'hésitez pas à nous faire un petit commentaire. Dernier petit point sur les suites et les extensions possibles. Alors on l'a dit, c'est un jeu avec une énorme fanbase, avec beaucoup de matière déjà qui existe. D'ailleurs, CMYK a communiqué sur le fait qu'ils ont déjà des centaines de pouvoirs et des dizaines de pistes différentes en réserve, hein, et qu'il y aurait au moins... une deuxième boîte standalone qui s'appellerait Second Wind avec autant de personnages que dans la première boîte, c'est-à-dire 36 nouveaux personnages et deux nouvelles pistes. L'idée c'est vraiment que ça puisse se jouer comme une boîte à part entière, mais surtout que ça puisse se mélanger aussi avec les autres boîtes. En gros, on pourra combiner autant de personnages, de pistes qu'on veut, c'est l'idée, et je pense qu'ils ont de la matière pour faire ça. Du coup, ouais, comme je disais, par contre, ça se base sur une communauté qui a déjà produit beaucoup, beaucoup de contenu, beaucoup de matière. C'est inhérent un peu à ce genre de jeu, hein, sur Rencontre Cosmique. Il y avait eu aussi beaucoup de travail de la communauté et il y a d'ailleurs une extension, je crois, qui regroupe un peu une extension officielle qui regroupe un peu tous les meilleurs pouvoirs et les meilleures idées qui ont émané de la communauté. D'autant plus là sur un jeu comme Athlète de Compète qui est encore on va dire un peu plus beaucoup plus simple que Rencontre Cosmique, ben il y a d'autant plus je pense de gens qui font leurs propres pouvoirs, qui créent leurs propres règles. Donc beaucoup de choses en disponibles. Et fin d'année dernière du coup Alex Hag qui est le patron de CMYK, il a publié sur BGG un formulaire ouvert pour proposer justement des coureurs et des pistes. Avec l'assurance d'avoir son nom crédité au livret et un forfait de $100 par pouvoir qui serait sélectionné. Alors, au début, je me suis dit, bon, comme ça, on dirait encore un truc d'éditeur qui veut profiter de la commu. Mais a priori, dans une interview, Hag, du coup, a dit que c'était pas spécialement prévu à l'origine et que c'était plutôt Richard Garfield qui avait insisté parce qu'il a été vachement inspiré par la communauté de fans et il aurait plutôt plaidé pour que ce soit parti. Enfin, il a dit que c'était dans l'ADN d'athlète de compète, de Magical Athlète, qu'il fallait le formaliser pour que ça puisse vivre même au sein d'un circuit d'édition commerciale. Bon, après, on peut quand même s'interroger, hein, $100, c'est vraiment pas très cher payé. Surtout pour un jeu qui repose exclusivement sur les pouvoirs des athlètes, quoi. Donc, si tu trouves un pouvoir qui rend le jeu super cool, bon, ben, t'as $100 et t'es crédité au truc. C'est cool, mais ça joue vachement sur un peu, tu vois, le côté, bah, le côté passion et le côté motivé des fans, quoi. Mais bon, Hag écrit lui-même que chaque coureur, c'est un peu un micro-design. Et je crois que Garfield a dit que bah, les coureurs sont vraiment le cœur du produit. Donc c'est difficile de soutenir à la fois que chaque personnage est un design à part entière et que finalement le concevoir ne relève pas vraiment d'un statut d'auteur. Ça mérite juste un petit billet et puis on n'en parle plus, quoi. Je sais pas trop quoi en penser, mais c'est difficile. Ça a le mérite de mettre la communauté en avant, mais ça le fait de manière un peu maladroite et sûrement pas rétribuée à sa juste valeur. Mais voilà, ça reste un éditeur commercial, quoi.
C'est ça. Bah, surtout, tu dis si c'est un truc de la communauté, bah ça reste dans la communauté, c'est gratuit et c'est là pour tout le monde. Ou si on considère c'est vraiment très bien, on l'associe, bah effectivement, je suis d'accord avec toi. Du coup, c'est un travail d'auteur et t'es pas juste 100 balles et un petit mot à la fin, bah tu te fais embaucher. Enfin, c'est assez étrange cette histoire, hein, au final.
Ouais, voilà, on vous laisse aussi nous dire ce que vous en pensez. Bon, j'ai beaucoup parlé, donc en synthèse, je vais faire très vite. Je dirais en bref que bah, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, comme vous l'avez entendu, hein, mais qui est clairement pas fait pour tout le monde, mais que vous devez au moins essayer une fois pour vous faire votre propre avis, parce que c'est un jeu qui ressemble pas à grand-chose d'autre, donc c'est sûrement dur de se représenter ce que c'est avec une chronique et avec un avis comme le mien dans les jeux du mois. Donc mon seul conseil, c'est ne l'achetez pas les yeux fermés, testez-le dans votre ludothèque avec des copains qui l'ont, etc. Faites-vous votre propre avis et voilà, vivez l'expérience au moins une fois. Mais allez-y avec un état d'esprit de vous êtes là pour vous amuser, ça va être le bordel, et prenez pas ça trop au sérieux, sinon vous risquez d'être déçu.
Ouais. Oui, c'est en plus la boîte nous le dit, c'est la fête.
C'est ça, c'est la fête. Bah voilà, avant de faire la fiche signalétique, je sais pas si tu voulais rajouter un petit truc sur Athlète de compète, Bartouf.
Ah non, alors là, je signe de tout ce que tu viens de dire, vraiment, c'est exactement ça. Et j'ai vécu une partie justement avec, comme tu disais, avec quelqu'un qui n'aimait pas et qui, on était avec des enfants, donc de 7 ans, et puis on était deux adultes, et à un moment, il s'est retourné vers moi, il m'a fait, mais... Vraiment, tu nous fais jouer à ça?
C'est quoi ce truc?
Et c'était trop drôle. Et on sortait, tu vois, de Paolo Mori, le...
Captain Flip?
Captain Flip. Et où il était genre, ah ouais, mais tu vois, là, ça, c'est un vrai jeu, là. Pourquoi tu nous fais jouer à ça? Et j'étais là, genre, mais non, mais c'est la même, en fait. T'as tout autant de contrôle et à la fois de hasard, de trucs où, bah, tu tires et puis, bah, voilà, quoi. Et c'était très drôle parce que tu vois, je les rapproche à moitié. Enfin, tu vois, dans le côté hasardeux et contrôle, les deux me semblent à un point d'équilibre que je trouve très juste, quoi. Et lui, il était là, genre, ah, mais non, mais celui-là, pas du tout. Enfin, ça passe pas. Et à côté de ça, les gamins, ils s'éclataient à retourner en arrière, à être dans une boucle, enfin, des choses comme ça. Enfin, c'était vraiment.
Ouais. Mais c'est vraiment, ouais, c'est ça. C'est vraiment, je pense, un jeu dans lequel le. En fait, la sensation de contrôle est vraiment gommée par plein de trucs, oui, qui font que t'as vraiment l'impression que c'est que du hasard, alors que pas vraiment. Mais en fait, c'est ça qui est fort, je trouve. C'est, oui, que t'as pas forcément beaucoup moins de contrôle que dans d'autres jeux, mais on t'enlève tous les trucs qui font que t'as la sensation d'avoir du contrôle.
C'est ça.
Et ça qui est cool. Bon, bah, super. Du coup, je refais un coup de fiche signalétique. Donc, c'est Athlète de compète de Takashi Ishida et de Richard Garfield, illustré par Angela Kirkwood, édité par CMYK, localisé en France par Yellow, pour 2 à 6 joueurs à partir de 6 ans pour des parties d'environ 30 minutes, fabriqué en Chine et en réapprovisionnement à la caverne du Gobelin, et avec un prix normalement qui sera de 27,90€. Et ben, c'est l'heure du deuxième jeu. Avec Moon Colony Bloodbath. auquel je n'ai pas joué. Hein. Alors, je vais être très attentif sur ce que tu vas raconter pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. Enfin, j'ai vu à peu près à quoi ça ressemblait. Mais...
Eh ben alors, Moon Colony Bloodbath. Ben, ça tombe bien. Écoute, je vais rapidement te refaire un point sur les règles parce que ça a déjà été bien fait dans un jeton de la mare, mais refaisons-le pour que tout le monde sache bien de quoi on parle dans cette partie. Donc, c'est un jeu donc de Donald X Vaccarino. C'est un jeu de cartes avec quelques jetons qui, en fait, servent à représenter les quatre ressources du jeu, que sont l'argent, la nourriture, le stock et la population.
Okay.
Et là, Beno FX, tu as bien entendu, la population, c'est une ressource. Et là, tu retrouves le bain de sang qui a été promis par le titre, parce que l'objectif dans le jeu, ce n'est pas d'atteindre un certain nombre de tours ou de voir qui a le plus de points, mais c'est de faire survivre sa colonie.
Ok. Garder des habitants.
C'est
quoi.
Ça. C'est ça. Il faut que tu aies encore des habitants. En fait, dès qu'une personne à table a perdu tous ses habitants, la partie prend fin. Et c'est celui ou celle qui a le plus de colons encore, qui lui reste, qui a gagné.
Ok.
En ce qui concerne la mécanique principale, en fait, le jeu fonctionne par cycle. De la même manière, en fait, qu'un deck building, dont, je vous rappelle au passage, Vaccarino est l'inventeur. Un paquet central, en fait, va se dépiler et petit à petit, des cartes vont être ajoutées. Puis, une fois que la pile, elle est vide, on la remélange, on mélange la défausse et on refait un paquet qui va relancer un nouveau cycle. Et le paquet central, il est composé de 4 cartes action, 2 cartes événements tirées au hasard au début de la partie, il y en a plusieurs et donc tu vois la physionomie des parties va changer grâce à ça, et surtout il va y avoir 2 cartes calamité que je vais pour l'instant laisser de côté. Les 4 cartes action, c'est notre seul espace de manœuvre et de choix. La joueuse ou le joueur choisit, quand c'est marqué tout à coup, vous pouvez faire une action, toi tu as 5 actions possibles qui sont... piocher, construire une carte, produire une des 3 ressources, autres que ta population, okay. Et voilà. Tu pioches, tu construis, et tu construis une des 3 ressources. La population, en fait, tu en gagnes parce qu'elle se trouve sur les cartes. Et lorsque tu n'as plus de jetons, parce qu'au début, on part avec un groupe de jetons population, et ben, tu te mets à sacrifier une de tes cartes. Sur laquelle il était créé. Donc ça okay. fait détruire le bâtiment, mais tu récupères du coup la monnaie, quelque part, de. Si par exemple c'était un bâtiment à 10 et tu devais payer 6 et t'en avais plus, eh ben tu jettes ta carte et tu reprends 4 jetons colons.
Okay.
Bien sûr, les cartes bâtiments, elles ont des effets qui bonifient nos actions, et on se retrouve donc dans un jeu de construction de moteur en début de partie, et puis bah, petit à petit, ton moteur, il va se dérégler. Et il va disparaître jusqu'à la mort bah, d'une personne à table.
Jusqu'à l'absence du moteur. Quoi.
C'est ça. Maintenant que tu as une bonne idée de comment ça fonctionne le jeu, je te propose de réfléchir à ce que propose vraiment en fait Vaccarino avec Moon Colony Bloodbath. Et en fait, ce que je pense qu'il nous propose avec ce jeu, c'est un Memento Mori. Donc, le Memento Mori, en fait, c'est surtout connu en peinture. En fait, il s'agit d'œuvres qui viennent rappeler à celui ou à celle qui est en contact avec elle que, ben, il est mortel, que nous sommes tous mortels. En fait, ces œuvres nous rappellent notre finitude et que, quelle que soit notre vie, on finira tous ou toutes dans un tados, quoi. Ces œuvres, elles ont traversé le temps et elles ont été très présentes dans les œuvres romano-chrétiennes, qui ont été inspirées notamment par les stoïciens pour la partie romaine, et puis chez les chrétiens, c'est plutôt dans la Bible sur l'Ecclésiaste dans la Bible, où par exemple t'as cette phrase assez connue, tout n'est que vanité, poursuite du vent. Ou le verset qui dit « Tu es poussière, tu redeviendras poussière ». Et je pense que l'origine italienne de Via Vaccarino me laisse me penser qu'il connaît bien ses œuvres. Et même s'il ne les connaît pas, en fait, en tout cas, le jeu s'inscrit clairement dans cette tradition.
Et c'est peut-être inspiré inconsciemment.
Bah, je pense aussi. Parce que Les cartes calamités, en fait, qui vont nous arriver, elles représentent le temps qui passe et en fait qui nous voit vieillir, puis petit à petit perdre de nos capacités jusqu'à la mort. D'ailleurs, c'est intéressant, l'ordre des calamités est toujours le même.
Ok.
C'est-à-dire que, et c'est face visible en plus. C'est-à-dire qu'on, tu vois, on mélange pas les calamités et on les sort les unes après les autres. Elles sont face visible et on dépile de la première jusqu'à la dernière. Et bah, assez, en fait, de manière assez amusante, en fait, le jeu reprend assez fidèlement ce que tu peux rencontrer dans ta vie. Au début, la première calamité, c'est est-ce que tu peux nourrir toute ta population ? Si tu ne peux pas, tu perds la population ou à l'inverse, si tu peux, tu augmentes un peu ta population. Et puis après, tu vas avoir d'autres calamités qui, il y en a une, c'est de la paperasse. Tout à coup, tu as de la paperasse à faire. Donc, tu te mets à perdre du temps, c'est-à-dire, tu pioches des cartes et puis t'en perds. Donc, tu es en train de te lutter face à ça. Et voilà, les calamités qui tombent comme ça et qui avancent dans le temps nous font un peu penser à ce qu'on peut vivre dans nos vies en grandissant, vieillissant, tu vois, en devenant autonome. Mmh. Et où il faut se prendre en charge, s'occuper de soi, on va dire, tu vois, arriver à passer les 18 ans. Et donc, ah bah putain, faut que je m'occupe de manger, faut que je m'occupe de faire mes papiers, faut que je m'occupe de... Et petit à petit, tu vois, les choses s'entassent comme ça. Le fait, tu vois, de vivre ce que tu peux déjà rencontrer dans une vie, je pense d'ailleurs que c'est en fait le grand sujet de Vaccarino. En fait, c'était déjà un peu ça dans Dominion. Tu te souviens, on développait notre royaume, mais ce royaume, en fait, par la mécanique du deck building, en fait, c'est toujours le même. C'est-à-dire, je découvre quelque chose d'autre, donc en fait, je me suis acheté une nouvelle carte, et puis plus tard dans la partie, bah, ça va revenir, et puis tout ce que j'ai déjà vu va revenir un peu tout le temps.
Ouais.
En fait, la seule chose qui change, c'est l'ordre dans lequel on va faire les choses. En fait, tous les jours, en fait, tu vas faire comme hier. Mais la question, c'est bah, dans quel ordre arriver, dans quel ordre les actions vont me parvenir. C'est d'ailleurs pour ça que la rivière de cartes, tu sais, comme par exemple dans Ascension, chez lui, qui amène des surprises, en fait, tu vois. Quand j'achète une carte, et bah, du coup, on en révèle une nouvelle et ah, qu'est-ce que ça va être ? Qu'est-ce qui va se passer ? Eh ben, c'est totalement étranger, en fait, à Vaccarino. Il a jamais fait ça. Et chez lui, en fait, tu sais déjà tout ce que tu vas pouvoir rencontrer. Dans Dominion, tu connais les 10 cartes avec lesquelles on va tous jouer. Là, de la même manière, bah, on connaît les 15 calamités et dans quel ordre elles vont nous arriver. Donc, chez lui, on sait déjà tout ce qu'on va rencontrer. Et même la notion, tu vois, de prise de risque qu'on peut retrouver dans un Kingdom Legacy, elle lui est aussi étrangère. Mmh. Parce que, quand, par exemple, dans l'autre de ces jeux qui est bien connu, qui est Kingdom Builder, c'est pareil, toutes les données des problèmes nous sont données au début de la partie. La seule donnée qui reste aléatoire, chez lui, en fait, quelque part, c'est la météo. C'est quel temps il va faire aujourd'hui. C'est-à-dire que je sais, les cartes, tu sais, dans Kingdom Builder, on sait que ça va être... Il y a un certain nombre de chacune des cartes. C'est juste, bah, qu'est-ce que je vais piocher aujourd'hui ? Est-ce que c'est de la forêt ? Est-ce que c'est du désert ? Est-ce que c'est... Voilà. Le plan, en fait, il est connu de tout le monde. On sait juste pas quand ça va arriver, en fait. Et donc, dans Moon Colony Blood Bass, eh ben, on se voit mourir petit à petit, mais, et moi, je pense que c'est là la grande force du jeu, c'est pas quelque chose de terrible. En fait, c'est pas quelque chose de lugubre ou de...
angoissant.
Dit comme ça, c'est pas... Voilà, ça peut pas rêver, tu vois. Hein, on va se voir mourir, waouh, super.
C'est clair.
Mais ici, en fait, et du coup, c'est encore une preuve, ça rejoint un peu le dossier qui avait été fait sur les thèmes dans les jeux. En fait, s'il fallait une preuve de l'importance du thème dans les jeux, là, en fait, Vaccarino, lui, il a fait le choix. Alors, il expliquait ça lors de la cérémonie du Spiel des Jahres. Dans le podcast Le Point de Paul Garay, il a été interviewé, qu'il avait choisi de mettre plein de blagues dans son jeu.
Ouais.
Que vu qu'il avait plein de cartes, il s'est dit « Ah, c'est super, je vais pouvoir mettre plein de blagues » et qu'il aimait beaucoup ça, pouvoir écrire en bas de ses cartes des petits textes d'ambiance où il mettait des blagues. Et, Et ça se retrouve même dans le nom des cartes. Ils en avaient parlé dans le jeton dans la mare. Le nom des robots, qui sont normalement, donc il y a des robots sur ces colonies luniennes, et ils sont censés, tu vois, nous aider. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont tous se détraquer et ils vont devenir des tueurs impassibles. Ouais.
Par créer
et ils vont tous
nous
tuer. Le robot cuisine, en fait, il va pas
cuisiner
faire
longtemps.
Une bonne soupe. Ouais, voilà, il va vite venir vers toi et c'est toi qui va devenir une soupe dans l'histoire. En tout cas, c'est certains de tes colons. Et donc, lui, il s'est dit, ah ben voilà, je vais mettre plein d'humour là-dedans. Et ce qui est super, c'est qu'en plus, donc l'illustrateur qui est Franz Vowinckel a appuyé son travail et ses effets comique dans le choix graphique qu'il a fait.
Ouais,
parce qu'en fait, il a choisi. Ouais.
J'allais dire, il y a un côté un peu Mars Attack, quoi.
Ben, c'est ça, exactement. Il a pris le style rétro proche des pulp américains des années 50-60.
Ouais.
Et c'est exactement, il a visé les cartes Mars Attack qui ont par la suite donné envie à Burton d'en faire un film. Parce que c'est bien dans ce sens-là que ça s'était passé. Hein.
Oui,
c'était des cartes à jouer, en fait, Mars Attack, et lui, il a repris ensuite au début des 2000. Ouais. Oui, c'est ça. Et les cartes sont réapparues avec le jeu Mars Attack qui était ressorti chez Edge Fantasy Flight Games, où ils avaient repris encore ce visuel, ouais, effectivement. Ouais. Donc, si on est bien face à un jeu qui traite de la mort, en fait, Vaccarino, il le fait dans une espèce de grand éclat de rire. D'accord, on va tous mourir, mais plutôt que de l'aborder d'une manière lugubre ou, tu vois, de manière affligée, c'est avec de l'humour et une espèce de pulsion de vie qu'il l'aborde, ça, en fait. Tu vois, en se disant, bah voilà, plutôt que de s'apitoyer sur notre état de mortel, en fait, le jeu prend le parti d'en rire. Et on s'en amuse en se disant, oh là là, et ça y est, voilà que ce robot-là arrive et va me...
Ouais, c'est une façon
détruire tout ce que j'ai fait, quoi.
C'est une façon de dédramatiser quelque part.
Exactement. Ce qui fait que même si le jeu en fait décime ta décolonie et détruit ton moteur que t'as mis en place, en fait, ce qu'il te propose, c'est d'en rire parce que c'est tout simplement inéluctable, en fait. À tel point même d'ailleurs que c'est assez drôle. Tu vois, je t'ai dit que la partie s'arrêtait dès que quelqu'un mourait et puis là on regardait. Et j'ai un copain à moi qui s'était pris le jeu. Et en fait, quand on y a joué ensemble, il a découvert qu'en fait, il faisait mal les règles, et ce, depuis un petit bout de temps. Lui, en fait, il jouait jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un
oui.
En vie.
Highlander,
il allait jusqu'au bout, tu vois, en disant « Non, 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 on va tous mourir, sauf le dernier, on sait qu'il devrait mourir, mais il est le dernier en vie, c'est lui le gagnant. » Et justement, d'ailleurs, le fait que tout le monde à table subit la même chose, en fait, ça atténue la violence ce qui nous arrive. On est tous soumis à la même chose. Et on voit que, tu vois, d'ailleurs, au passage, Vaccarino, tu vois, un peu à la manière de Bullet Star ou Bullet Heart, dont je vous avais parlé la saison précédente, il a trouvé un moyen, alors qu'on est dans un jeu où quand même chacun joue dans son coin. Tu vois, quand on retourne la carte action, on résout tous notre action dans notre coin.
Ouais.
On n'est pas vraiment... Il n'y a pas d'interaction.
Tu ne surveilles pas trop ce que fait le voisin, quoi.
Non, en fait, il n'y a pas vraiment d'effet qui te permette de rentrer en interaction avec l'autre. Donc, on est tous sur notre petit plateau. Mais le fait qu'on reçoive ensuite les calamités tous ensemble, eh ben, ça nous permet de quand même jouer ensemble. Parce que on espère ensemble qu'on va pouvoir faire une action avant qu'un truc mauvais nous arrive, en se disant « Oh là là, il y a ça qui va revenir. J'espère... » Tu vois, bah, par exemple, le truc du début, le fait de pouvoir nourrir sa population, tu te dis « Putain, il me manque un petit peu de bouffe. » J'espère que j'aurai une action avant que cette calamité-là me revienne pour pouvoir reproduire de la nourriture et ne pas me prendre un truc. Et du coup, on est tous en train d'espérer ou en train de crier quand tout à coup une calamité arrive en faisant « Oh non, pas ça maintenant, c'est pas possible !» Ben, genre, tu vois, tu viens de piocher pour essayer d'avoir des cartes pour reconstruire des choses et là, il y a de la paperasse qui t'arrive, ça t'en enlève. Tout le monde est là genre « Ah non, c'est pas possible, c'est pas le moment. » L'autre chose aussi qui peut arriver, c'est que une désynchronisation de nos jeux se fait.
Ouais.
Et du coup, des fois, tu vois, les autres font « Oh non !» T'en as deux à table qui font « Oh non, moi j'ai pas assez de bouffe !» Et c'est le truc de la faim qui arrive. Et toi, bah, t'avais prévu le coup, ou en tout cas t'avais anticipé ce truc-là à la différence des autres. Et là, tu te moques d'eux, ou en tout cas t'es dans une espèce de joie mauvaise, tu vois, en leur disant « Eh ben moi !» je paye. Voilà, tout va bien. Et à la fois, tu t'amuses aussi du fait que ton voisin coule un peu plus vite que toi.
Ouais.
Et du coup, ça fait émerger des cris, des lamentations, des rires, et on les partage. Alors qu'on a tous notre nez sur notre plateau et dans nos cartes, quoi. Mais à ce moment-là, ça émerge, en fait, cette partie-là. Et surtout que, d'ailleurs, quand je dis on a le nez sur notre plateau et sur nos cartes, ça se retrouve aussi parce qu'on passe notre temps à faire des manipulations. On fait beaucoup de maintenance, en fait, dans Moon Colony Bloodbath. Surtout, t'arrêtes pas de faire de la monnaie sur les différentes ressources. Tu retournes la carte du milieu et tu en appliques les conséquences. Hein. On peut le dire, hein, c'est ce qui déplaît à plein de joueurs. Mais ici, c'est là-dessus que je voudrais revenir, en fait, à la fois sur ce que toi tu disais, mais aussi sur le commentaire là du Pionfesseur. Ouais. Parce que dans son commentaire, Pionfesseur revenait sur un mot qu'avait utilisé Cyrus sur Hot Streak. Il avait parlé d'auto-battler. Et il le reprenait en disant que le terme déjà venait du jeu vidéo, et ça renvoyait à un genre bien précis où on était en 1 contre 1, tu vois, et que c'était pas exactement la même chose dans Hot Streak, où on était plus du côté du jeu à résolution, ce qu'on peut, et donc il renvoyait vers sa chronique, donc je vous renvoie vers son analyse. Donc les jeux à résolution, donc qui sont par exemple justement un autre le faisait remarquer, Colt Express,
ouais.
Dont on sait que Kurtz aime tant, ou plus loin en arrière, on peut penser à Space Alert ou Galaxy Trucker, où t'as toute une phase où tu fais plein de choses, et puis ensuite, hop,
après,
ça s'arrête.
Tu regardes ce qui se passe, ouais.
Et on regarde la résolution, qu'est-ce qui se passe ensuite. Je pense que à la fois, il a raison de reprendre Cyrus sur ce terme-là, et en même temps, je pense qu'il a aussi un peu tort, parce que, en fait, les trois jeux qui sont arrivés cette année-là, que sont Hot Streak, Moon Colony Bloodbath et Athlète de Compète. Ouais. Ils sont plus des descendants, moi je trouve, de Challengers que de justement Galaxy Trucker ou Space Alert. Dans le sens où, selon moi, en fait, c'est des jeux à résolution, on est bien d'accord, mais modernistes. Je m'explique. À la fin du 19e et pendant une partie du 20e, le moderne en art a été traversé par deux courants, ce qu'on a appelé la modernité et le modernisme. La modernité, c'est l'entrée, comme par effraction, du réel dans les œuvres, que ce soit le collage, ou ça se retrouve aussi dans les œuvres non finies ou inachevées. Et l'autre courant, donc, c'est le modernisme, où au contraire, en fait, par une espèce de surmaîtrise, l'artiste donne à voir son travail et l'œuvre se faire sous nos yeux. Tu vois l'artiste, tu vois, le trait est tellement appuyé que tu le vois faire, en fait, quelque part.
Ouais.
Alors, il ne faut pas confondre avec les mises en abîme classiques, où un art parle de lui-même, mais ça, la mise en abîme, c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus classique ou conventionnel. Entre guillemets, hein, le conventionnel. C'est par exemple, dans le jeu de société, c'est Millennium Blades. Millennium Blades, où le jeu nous propose de jouer des joueurs de cartes à collectionner. Tu vois, on joue des joueurs de cartes. Et donc, c'est cette espèce de mise en abîme.
Incroyable expérience, hein, Millennium Blades,
oui.
Au passage.
Oui, oui. Et donc, nous, on joue des joueurs, des joueuses, et ça, c'est vraiment la mise en abîme. Alors que dans les jeux modernistes, en fait, je dirais qu'on est joué par le jeu. Notre temps de jeu, et c'est bien ce que tu disais dans ta chronique, hein, c'est celui où nous faisons des choix, et on devient...
spectateur.
Hein. Ouais, c'est ça. Eh bien, il est devenu une partie plus congrue, c'est plus petit. Le jeu, il nous propose de faire un micro-choix, et puis ensuite, il nous propose de voir la résolution de ce micro-choix pendant plus longtemps que ce qui est raisonnable dans un jeu classique. En fait, on est des joueuses et des joueurs en train de regarder le jeu se jouer devant nous. Et deux attitudes sont possibles face à ça. Soit on considère qu'on ne joue plus, et c'est ce qu'on disait sur les gens qui n'aiment pas ces jeux-là en disant bah « Non, il n'y a plus de jeu, enfin voilà, je fais plus rien. » Parce que tu n'as plus de prise sur le jeu. Et que c'est tout ce qu'a inventé, quelque part, le jeu de société moderne. C'est-à-dire depuis Sid Sackson et Randolph, qui ont passé leur temps à lutter contre le pur hasard, tous, et comme tu disais, oui, effectivement, essayer de nous donner de la prise, ouais, la sensation de la statistique, de contrôle, ouais. Une sensation de contrôle. Et dans ces jeux-là, en fait, c'est à moitié mis à bas et on le rejette en partie. En fait, le contraire, on retrouve en fait une espèce de joie enfantine, ouais, à se dire, si je fais ça, en fait, je pousse une petite bille, je lance un dé, et on regarde les conséquences pendant un petit bout de temps, en se réjouissant en fait de ce que le chaos peut entraîner en fait. Ouais. C'était Challengers et Outstreak. C'est, tu vois, je prends une carte, je rajoute telle carte dans un paquet, je mélange, et puis je vois ce que ça va donner, comment ça va tomber. Et j'espère que ça va bien se passer. Et je vais m'amuser de... Est-ce que mon jeu sort complètement à l'envers ou est-ce qu'il va bien se passer ? Dans Athlète Compète, t'as choisi ton personnage, tu lances les dés et t'espères que ça va le faire sur cette course-là, dans les conditions avec les autres qui ont ce qu'ils ont pris. Et ben Moon Colony de Blonde Baff, lui, la petite différence avec les autres que je viens de citer, et surtout avec le tien, c'est que la perte de contrôle, elle n'est pas aussi brutale que dans cela.
Ouais.
Elle est progressive. Parce que le paquet de ce qui nous arrive, il gonfle, en fait. Et petit à petit, les calamités, en fait, se sont ajoutées les unes après les autres. Il y en a deux, en fait. À chaque cycle, il y a deux nouvelles calamités qui arrivent. Donc, plus le paquet gonfle, plus tu perds du contrôle. Tes moments de choix s'espacent de plus en plus. Et tu te mets à voir ton jeu se défaire, en fait. Là où il y a pas, tu vois, en début de partie, t'étais, ok, il y a ça et ça qui vont tomber, donc je réagis en faisant ça, 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 et je suis en train de construire mon moteur et de m'améliorer. Et petit à petit, eh ben, oh là là, j'ai une action toutes les 8 cartes. Ouf, comment je vais survivre? Et donc, bah, la mort avance, et c'est à nous de nous détacher du jeu, et d'en devenir des espèces de spectateurs hilars. De notre fin, quoi, de la fin de la partie et de notre colonie. Alors, bien sûr, comme dans For a Crown, certains ont regretté que le deck building là commun soit pas plus travaillé, ou plutôt qui serait différent, que tu vois, on travaillerait ce qui se passe. Alors que là, en fait, juste tu le subis, on fait pas grand chose. Alors, on ajoute, il y a quelques cartes qu'on peut ajouter, des cartes bonus, qui ne valent que pour nous, où tout à coup on dit, il y a une carte que tu pioches, et c'est, ah, ben moi, Bartouf, mon personnage, gagne une ressource, ou gagne une nourriture, ou gagne une population.
Okay.
T'as des cartes comme ça que tu peux mettre. Mais c'est rien du tout, en fait. En vrai, la plupart du temps, c'est juste le jeu tourne tout seul, et des calamités s'ajoutent, et on subit tous, quoi. Disons que si... mais c'est vrai que là... Moi, je comprends les gens qui ont été déçus par ce jeu de ce point de vue-là. La communication avait été là-dessus en disant « Ah oui, enfin, un deck building coopératif. » Enfin, ou en tout cas, tu vois, où on fait le deck, on le construit ensemble. Mais c'est absolument pas vrai, en fait. Le deck se constitue tout seul, et nous, on ne fait rien. On ne fait que construire notre colonie et essayer de répondre à ce qu'on subit dans le deck commun qui s'est construit, bien malgré nous, en fait. Mais... je pense que justement, lui, c'était pas son objectif à Vaccarino. C'était pas de faire un deck building, tu vois, commun. Hein? C'était bien de faire, encore une fois, ce système de cycle où quelque chose nous arrive dessus. Et là, cette fois-ci, il nous permet de construire un petit peu et puis de détruire tout ce qu'on a fait au fur et à mesure. Et qu'on perde le contrôle petit à petit.
Ouais, bah, c'est clairement des vecteurs d'émotion qui sont importants, hein, cette perte de contrôle, je pense, ça fait vivre des émotions qui sont pas forcément positives ou joyeuses, même si le jeu a l'air de contrecarrer ça avec pas mal d'humour et pas mal de trucs, mais c'est des sentiments qu'on croise pas forcément. La perte de contrôle, c'est pas des sentiments qu'on croise beaucoup dans les jeux de société, justement. Et...
non, oui, oui. Ben oui, et puis lui, il le travaille, c'est-à-dire qu'en plus, tu vois, à la limite, comme je te disais, dans Austric ou dans Athlète de Compète, c'est dès le début que tu vois, il y a une espèce de pacte avec le joueur en disant, bon, voilà, c'est bon, t'as choisi tes athlètes, et ben maintenant, on va lancer les dés. Alors que là, tu vois, t'as encore, quand les cartes actions arrivent,
t'as encore l'impression d'avoir du contrôle, ouais.
C'est ça, t'as encore du choix sur 5, mais en vrai, ça va arriver de moins en moins, et petit à petit, t'en auras de moins en moins, en fait. Et puis, en plus, tout ce que tu t'étais bonifié, eh ben, tu vas le plus faire. Là où, tu vois, quand tout à coup, tu disais, ah, ben, quand je fais des ressources, eh ben, je crée du stock et j'ai droit à deux ressources de plus. Et en plus, ça me fait de l'argent parce que nanana. Enfin, tu vois, hop, 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 t'avais tous tes petits combos qui se mettaient en place. Eh ben, alors que normalement, dans les jeux à moteur, ben justement, tu montes, tu vas toujours plus vite et plus fort. Ben là, tu y vas jusqu'à un point où tout à coup, après...
Tout s'effondre, quoi.
Ça dégringole.
Ouais, t'as vraiment cette progressivité de la perte de contrôle, quoi.
Ouais. Et ce qui fait que, du coup, tu vois, le pacte, quelque part, avec le joueur est pas très clair au début.
Oui, parce que t'as l'impression que ça va être un jeu à moteur, quoi.
C'est ça. Tu peux être faire prendre là-dedans et tout à coup te faire ah mais non c'est pas possible. Et bah il y a des gens qui ont écrit aussi effectivement des remarques en disant non mais c'est pas possible. Enfin moi j'ai une action toutes les 10 minutes. J'ai un choix toutes les 10 minutes à quel moment je joue dans ce jeu-là. Mais si en fait on a encore justement un peu de choix et c'est ce peu de choix qui fait que c'est très drôle de voir bah qu'est-ce que ça a donné et qu'est-ce que ça va donner par la suite quoi. En tous les cas. Quand je te disais oui, ça parle de la mort et tout ça, ce qui est clair, c'est tout est fait pour aller contre. Dans le visuel, il suffit, si vous allez voir ne serait-ce que la couverture du jeu, qui ressemble à une pub pour aller sur la Lune et être des jeunes colons luniens, et où on voit un robot de cuisine juste à côté avec un beau hachoir, et vu que c'est marqué Moon Colony, tu vois, et que tout a l'air joli, mais t'as le Bloodbath écrit en rouge et dans une autre typographie qui est juste en dessous, et où d'un coup tu comprends, tu te dis oh là là, mais en fait ils vont se faire déchiqueter par ce robot qui est en face d'eux. Et donc on voit qu'on est dans du second degré tout du
long. Ouais, il y a un petit côté Fallout aussi là-dessus, sur le côté un peu humour de l'apocalypse, quoi.
Tout à fait ça. On peut aussi entendre, bien sûr, alors du coup, tu vois, cette espèce de memento mori, bien sûr que ça va contre toutes les formes d'hubris des humains, tu vois, les volontés de puissance et de pouvoir faire, de se dépasser, alors qu'au final, bah oui, mais on finira tous par mourir, et bah, bien sûr, s'en prendre à l'idée de la colonie lunienne qui est dans l'air du temps par certains... fou qu'on peut avoir, on pense notamment à SpaceX,
Elon Musk,
ouais. À Elon Musk, voilà. Ça fait énormément de bien aussi, ce jeu-là, de ce point de vue-là.
Bah, c'est d'autant plus fort que tu as cette sensation de contrôle au début et que tu te rends compte au fur et à mesure de la partie que, en fait, tu contrôles rien, quoi. Tu as l'impression que tu fais des trucs, que
c'est
tout
ça.
Est sous contrôle et, en fait, tu le perds progressivement, quoi.
Alors, il y a une version où le jeu est un peu... tu peux plus ou moins choisir une difficulté et il se trouve que tu peux arriver au bout du paquet calamité. Il a une fin et la fin est d'ailleurs très drôle. Je me permets de la dire parce que de toute façon, toi, on les connaît toutes ces cartes-là, ces 15 cartes calamité. La dernière est vous avez trouvé le manuel pour comment réussir une colonie. Donc ça y est, c'est bon, votre colonie est sauvée. T'as trouvé le manuel, tu vois, pour de kit de survie sur la Lune. Et à ce moment-là, la partie s'arrête. Et on regarde qui a encore le plus de population. Et c'est cette personne-là qui gagne.
Okay.
Le jeu est noté de 1 à 5 joueuses. Donc, il comprend une version solo. Je dois vous avouer que je n'y ai pas joué en solo. J'ai essayé. Et puis, en fait, cet été, je n'ai pas trouvé le temps, malheureusement. Par contre, ce qui est intéressant, pour donc 2 à 5, moi j'ai essayé toutes ces configurations-là, et ça marche très bien dans tous les cas, de 2 à 5. Parce que vu que en fait, on fait chacun tous ensemble nos actions en même temps, comme je te disais, eh ben, du coup il n'y a pas de temps mort, ça ne vient pas allonger particulièrement la partie. Alors si, forcément, sur quelqu'un qui débute pour la première fois, le temps qu'il lise les cartes, les effets, machin, et que tout se mette en place... Forcément, c'est un peu plus long de ce point de vue-là, mais comme n'importe quelle première partie. Mais sinon, ça reste dans un temps... Donc, il est annoncé entre 45 à 90 minutes. Oui, on est bien autour de... Une première partie, quand tu connais pas trop, 1h15. Et dès que tu connais, dès que tu y as déjà un peu joué, on tombe rapidement aux 45 minutes.
Ok.
Et donc, comme je vous disais, oui, de 2 à 5. Mais pourtant, il y a quand même une ambiance autour de la table. Enfin, moi, en tout cas, toutes les parties que j'ai faites ont rigolé beaucoup. Même si, tu vois, il y a quand même un effet où ça te prend à la gorge et où tout est en train de se détruire devant toi.
Oui, tu l'as un peu mauvaise quand même, quoi.
Tu l'as un peu mauvaise quand même, mais... Ah bah, il y en a notamment, il y a, je sais plus... T'as une construction qui te permet d'éviter une calamité. Je sais plus, t'as une espèce de plombier, et à un moment, t'as des fuites. Et genre, donc, tout le monde se prend la fuite, sauf une personne... Et on le déteste tous, celui qui, à chaque fois, tu vois, dès que la carte tombe, tout le monde est là, genre, oh non, il faut faire ça. Il y en a un qui fait, pas moi, pas moi. Ah, tais-toi, toi. On te déteste. Et donc, la variété aussi des parties, comme je te le disais, est maintenue par le fait que, on a un pool de cartes événements. Et on en prend deux au hasard au début de chaque partie. Même si, tu vois, les calamités vont toujours arriver dans le même sens, il y a deux événements extérieurs qui sont bénéfiques ou pas, enfin plutôt bénéfiques, enfin tu vois, qui nous permettent de faire des choses, qui sont toujours un peu aléatoires et donc qui vont changer la physionomie de la partie.
Ok.
Au niveau du tableau building, on est sur quelque chose d'assez classique par contre. Tu vois, on voit certains axes stratégiques qu'on peut essayer. La question est toujours plutôt dans quel sens ça va tomber. Tu vois, c'est comme, encore une fois, c'est comme Kingdom Builder. T'as beau t'être fait une super ouverture en te disant « Waouh, quand je vais tomber sur la carte prairie, là, je vais pouvoir faire ma colonie, rejoindre tel château ou tel pouvoir. » Sauf que tant que tu tombes pas sur cette carte prairie, t'es juste bloqué. Mmh. Et t'es « Ah, ah, ah !» Et ben, c'était donc Moon Colony Bloodbath de Donald Vaccarino. Donc, l'illustrateur, c'est Franz Vowinkel. Ça a été publié par Rio Grande Games. Et donc c'est pour 2 à 5 joueuses pour un temps de 45 à 90 minutes conseillé, avec un âge 14 et plus, bien entendu. On est sur de la lecture de cartes, de la construction du coup de stratégie, donc voilà, à faire avec des joueuses nées plutôt au-dessus de 10 ans, 10, 11, 12 ans que avant.
Ok.
Alors, est-ce que je t'ai donné envie avec ce Moon Colony Bloodbath ?
Bah ouais, écoute, j'ai bien envie d'y jouer. C'est vrai que en fait, à Cannes, je l'ai vu, on pouvait réserver pour y jouer, etc. Mais je sais pas, j'ai eu une certaine méfiance, j'ai pas trop regardé ce que c'était et tout. J'avais l'impression que c'était un peu, qu'il y avait un peu un truc très marketé derrière. Parce qu'il y avait, tu sais, il y avait des espèces de huttes, tu pouvais aller, enfin des espèces de, pas de huttes, de modules, tu sais, de colonies lunaires comme ça, tu pouvais aller jouer dedans, fallait s'inscrire et tout, enfin c'était, et du coup j'ai eu un peu ce côté méfiant et puis fallait s'inscrire j'ai pas joué du coup, mais je me suis pas spécialement renseigné sur le jeu et de quoi il s'agissait. Et non, en vrai, je pense que c'est quelque chose qui peut pas mal me plaire de ce que t'as décrit et du fonctionnement du jeu. Si j'ai l'occasion, j'en ferai une partie avec plaisir.
Ben écoute, peut-être encore un week-end proxy jeu.
Peut-être. J'espère. Alors pour le coup, j'espère y jouer avant. J'espère y jouer avant quand même. Mais... mais oui, au pire, ce sera sur la liste du prochain week-end proxy jeu.
Mais oui.
Super. Ben merci à toi.
Eh ben. Merci à toi aussi. Et puis, si vous voulez avoir d'autres avis, n'oubliez pas qu'il y a un sorton grand jeu où Moon Colony Bloodbath a été traité.
Un jeton dans la mare.
Oh, excusez-moi.
Mais vous pouvez aussi écouter sorton grand jeu. Il y en a un notamment sur Formula D, si vous voulez un jeu de course avec des dés.
Voilà.
Qui pourra faire le lien un peu avec Magical Athlete, même si c'est une filiation assez lointaine.
Ouais.
Que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. Vous pouvez également nous contacter sur Facebook, sur Instagram, Mastodon ou encore sur Blue Sky, mais également sur Discord. Pensez à partager nos émissions sur les réseaux sociaux et surtout parler de nous autour de vous. Si vous avez aimé ce qu'on fait, vous pouvez nous aider financièrement. Pour ça, vous pouvez passer soit par PayPal, l'adresse est disponible sur la page d'accueil du site, soit par virement bancaire à l'association Proxy Jeux. Contactez-nous, on vous filera notre RIB pour le petit virement qui va bien. Le mois prochain, vous retrouverez un nouveau duo dans l'émission des jeux du mois. On ne sait pas encore sur quel jeu, on ne sait pas encore qui. Et la semaine prochaine, vous retrouverez un dossier sur nos jeux préférés de 2006. Oui, c'est précis. aura des chroniques sur des jeux qui sont sortis en 2006. On vous laisse la surprise de savoir qui présentera quoi. Bah, suite à ça, on vous dit donc à très bientôt, et surtout, jouez bien.